Eh bien, Dieu a choisi de nous parler à travers la Bible. Et pourquoi nous voulons ouvrir nos Bibles dans un passage de la lettre que l'apôtre Paul a écrit à Tite, qui était un de ses collaborateurs. Et nous lisons dans Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. C'est un texte un peu compliqué, on ne verra pas tout ce qu'il y a dedans, dans le style de l'apôtre Paul qui est un peu décalé par rapport à nous aujourd'hui, mais un texte qui a des choses aussi à nous dire et à nous apprendre. Donc je lis dans la lettre de Paul à Tite au chapitre 2, verset 11. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, salut, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent, d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons de voir sa gloire, comme on l'a chanté. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. C'est ainsi que tu dois parler, encourager et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux princes, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, et de faire toujours preuve de douceur envers tous les humains. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie, nous étions odieux, et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de la compassion de Dieu, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Lettre de Paul à Timothée, les deux lettres de Paul à Timothée et la lettre à Tite sont appelées traditionnellement épîtres pastorales parce qu'elles s'adressent non pas à des églises comme toutes les autres, mais à des responsables d'église, des pasteurs, et notamment à des responsables d'église envoyés par Paul dans des situations compliquées. Tite est un compagnon de mission de l'apôtre Paul. On en parle, son nom est cité dans 2 Corinthiens, dans Galates et dans 2 Timothée. Tite est à Crète, quand Paul écrit. Paul est passé par la Crète, une des grandes îles de la Méditerranée, et il a quitté cette église, soit en laissant des problèmes non réglés, soit les problèmes ont surgi après son départ. En tout cas, il laisse Tite en Crète pour veiller et pour mettre bon ordre à différents problèmes. Au début de la lettre à Tite, nous lisons « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui est resté à régler et que tu nommes des anciens, des responsables d'église, dans chaque ville, selon ce que je t'ai moi-même prescrit. » En lisant l'ensemble de la lettre, on perçoit que les églises connaissaient des problèmes internes, avec des contestations, des divisions, des désaccords, etc. etc. Il y a, d'une certaine manière, un mauvais état d'esprit. Paul, dans sa lettre, souligne certains aspects fondamentaux de son enseignement, sans doute pour reposer certaines bases contestées par les contradicteurs dont il parle dans l'Épître. Et notre texte repose un certain nombre de bases Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et pas parler de tout, mais une des premières choses sur lesquelles il insiste, et qui le thème du texte, c'est le salut. Non pas sous la forme théologique majestueuse de l'épître aux Romains, mais d'une façon plus polémique, plus virulente. Ce texte va souligner différents aspects du salut. Et le premier aspect, c'est que le salut nous vient comme une initiative de la bonté de Dieu. Le salut est une pure initiative de la grâce de Dieu. Dieu agit par pure bonté pour nous, les humains. Il n'y a rien, mais Paul le souligne, dans l'attitude de ces humains qui aurait déclenché la mise en œuvre du salut comme une récompense ou une conséquence de la bonté des hommes. Pas du tout. Mais Dieu a agi de façon proactive. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Proactive, c'est l'inverse de réactif. Donc il a agi de lui-même, mu uniquement par les sentiments positifs que lui a en lui-même envers sa créature. Paul utilise un vocabulaire varié pour nommer les sentiments de Dieu. Il parle de la bonté de Dieu, il parle de la compassion de Dieu, et il parle de son amour pour les humains, de sa philanthropie. Vous connaissez le mot philanthropie? En général, il est utilisé uniquement aujourd'hui pour ceux qui donnent de l'argent à d'autres, aux pauvres, hein, c'est ça la philanthropie. Mais dans le grec de l'apôtre Paul, c'est l'amour d'une manière générale. Philéo, c'est l'amour, anthropos, c'est homme, c'est l'amour pour les humains. Dieu est habité par ces choses-là. Et donc, c'est lui qui déclenche, qui prend l'initiative du salut. Et ce salut, il se manifeste en Jésus-Christ. C'est le Christ qui accomplit l'œuvre de salut. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est par lui que nous pouvons être sauvés et devenir héritiers de la vie éternelle. C'est par lui que nous pouvons entrer dans une vie nouvelle. Il faudrait, et pour développer cela, il suffit de lire ce qu'il y a dans les évangiles, de voir comment Jésus a rencontré beaucoup de personnes différentes, comment il est entré en communion avec elles, comment il les a écouté, comment il les a enseignés, comment il a cheminé dans la diversité des situations des uns et des autres, comment il a manifesté son amour par des miracles comme des guérisons, mais aussi comment il a manifesté son amour en accueillant des gens rejetés. Sophie nous a parlé d'une société qui fonctionne sur la honte et l'honneur. Israël avait sa manière de fonctionner sur la honte et l'honneur. L'honneur, c'était d'obéir aux règles de la culture liées à l'Ancien Testament et de mener une vie réglée selon la loi. Et la honte était pour ceux qui n'étaient pas là-dedans. La honte était pour les gens de mauvaise vie, comme dit le texte. Eh bien, Jésus a pas du tout, est pas du tout entré dans cette vision de la réalité. Il a rencontré aussi bien ceux qui avaient la honte socialement, des péagers qui profitent des collecteurs d'impôts qui profitaient de leur boulot pour se mettre plein la poche, ou des femmes prostituées, ou des choses comme ça. Jésus a accueilli ces gens-là aussi bien que les autres. Il n'a pas fait de distinction. Il a pas tenu compte de ces barrières sociales et culturelles qui structuraient la société de son époque. Donc il a fortement perturbé aussi la vision des choses, et certains ont du mal avec cette perturbation. Mais c'est une caractéristique de l'amour, de ne pas, en tout cas de l'amour de Dieu, et espérons de notre aussi, de ne pas tenir compte des barrières qui séparent et de ne pas tenir compte des jugements sociaux qui excluent une partie de la population ou des parties de la population par rapport à d'autres. Dans notre texte, Paul utilise des images du rachat, de la purification, pour parler du salut. Ce sont des images classiques qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament et pas seulement chez Paul. Au chapitre 3, verset 5, Paul utilise un langage qu'on lit plus rarement. Dieu, dit-il, nous a sauvés par le bain de la régénération et par le renouvellement apporté par le Saint-Esprit. Régénération et renouvellement. Arrêtons-nous un peu sur ce point, sur ces deux mots. Il nous indique que pour Paul, le salut n'est pas seulement une déclaration d'acquittement, parce que le Christ est mort à notre place. Le salut est une expérience qui nous transforme. Qui nous transforme. Le Saint-Esprit crée en nous du neuf. Du neuf. Il change réellement quelque chose en nous, ou plutôt il commence à changer réellement quelque chose en nous. Et c'est ce qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. C'est ce qui nous permet de nous détacher petit à petit du péché et de grandir dans une vie concrète de disciple de Jésus-Christ. Bien sûr, cette transformation, cette régénération, elle est limitée et elle est progressive. L'action de l'Esprit en nous est partielle et se développe petit à petit dans le temps. Saint-Esprit n'est pas une fée qui, avec sa baguette magique, transforme les citrouilles que nous sommes en carrosse. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un réel changement, mais il est progressif, il est limité et progressif. Mais il est réel. Et nous vivons souvent des moments de tension entre notre réalité humaine, marquée par notre culture du passé, marquée par le péché, par des tentations qui ne sont pas bonnes ni pour nous ni pour les autres. Nous restons accessibles, nous sommes influencés par ces réalités-là, et en même temps nous sommes attirés et poussés par une autre réalité. Et on est parfois divisé en nous-mêmes, pris dans ces deux forces, celle de l'esprit et celle de la chair, pour utiliser le langage de l'apôtre Paul. Mais petit à petit, nous pouvons progresser, pour peu que nous demandions au Saint-Esprit de continuer son œuvre, nous pouvons avancer sur le chemin que Dieu place devant nous. C'est un chemin difficile. L'Évangile nous dit que c'est un chemin étroit. Mais c'est un chemin sur lequel nous pouvons réellement avancer. L'Esprit est à l'œuvre en nous, il travaille notre intériorité, il renouvelle notre être petit à petit, encore une fois, pour peu qu'on le lui demande. L'œuvre commencée au moment du salut se poursuit ici-bas, même si elle ne sera achevée que par notre résurrection. C'est important de comprendre le salut comme ça, parce que cela nourrit notre cheminement. Le salut, ce n'est pas un changement d'état seulement, c'est aussi ça en partie, mais c'est avant tout un chemin. Et la première appellation des chrétiens dans le Nouveau Testament, quand on lit les Actes des Apôtres, on les appelait ceux du chemin, ceux de la voie. C'est intéressant. Ça veut dire que dans leur message, dans leur prédication, ils insistaient beaucoup sur ce terme-là, au point que les autres qui n'étaient pas chrétiens avaient les appelaient comme ça, ceux du chemin. Une telle compréhension du salut est indispensable pour nourrir notre cheminement, fortifier notre engagement et notre espérance. Malgré des moments de recul, des incompréhensions, malgré des résistances qui continuent à nous habiter, ou le péché qui s'agrippe facilement à nous, comme dit l'apôtre Pierre, nous pouvons progresser. Une telle compréhension du salut oriente aussi notre piété, notre vie de prière. La prière, ce n'est pas seulement les mots que je prononce quand je suis en présence de Dieu. La prière, c'est ce moment où je m'expose de tout mon être dans le recueillement à la présence de Dieu. Et où, dans le silence, j'essaye d'accueillir sa présence. Où je ne suis pas seulement dans l'extériorité des paroles que je prononce, mais aussi dans l'intériorité où j'essaye d'accueillir la présence du Seigneur, et où je lui demande de travailler en moi. Et la prière, parmi bien d'autres choses, c'est ce temps où j'invite toujours à nouveau l'Esprit-Saint à me remplir pour qu'il continue son œuvre en moi. L'Esprit-Saint, il est comme Jésus. Jésus dit à des chrétiens, « Je suis à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend et ouvre, je rentre. Donc régulièrement, il faut dire « Jésus, entre !» De façon intentionnelle, volontaire, entre et fais ce que tu as envie de faire dans mon cœur. De la même manière pour le Saint-Esprit, entre et continue ton œuvre en moi de régénération et de renouvellement. Un de mes amis, quand il ne sait pas toujours quoi dire à Dieu dans sa prière, dit simplement les mots suivants. Seigneur, fais en moi ce que tu veux y faire. Parfois, on ne sait pas très bien, ou parfois, on a parfois des idées un peu bizarres, et pas toujours très claires. Bon, il prie comme ça. Fais en moi ce que tu veux, continue à faire en moi ce que tu veux y faire. Laissons-nous, Dieu, continuer à travailler notre être intérieur. Continuons-nous à lui ouvrir notre porte pour qu'il continue son travail. Sommes-nous volontaires pour continuer à changer, à ce que Dieu fasse pousser en nous le fruit de l'esprit? Ou est-ce que on s'est arrêté à une certaine étape de notre vie spirituelle et puis on est bien comme on est et puis ça avance plus trop? Un dernier aspect du salut, pardon, un autre aspect du salut dans ce texte, c'est que le salut, c'est l'acquisition d'un peuple. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le texte. Jésus-Christ est donné lui-même pour nous, et pour purifier un peuple qui soit son bien propre. C'est intéressant, c'est un des textes qui insiste le plus sur le fait que le salut, ce n'est pas juste une histoire entre moi et Dieu, mais que, avec le salut, je me retrouve inséré dans le peuple de Dieu, incorporé dans le peuple de Dieu. Dieu n'a pas cherché une addition d'individus par son œuvre de salut, mais a créé un peuple nouveau. Et donc, cela aussi, évidemment, a des conséquences pour notre vie de foi. D'ailleurs, j'aime cette image dans les évangiles. Si quelqu'un veut suivre Jésus, supposons que Jésus soit là aujourd'hui et qu'on veuille le suivre. Et qu'on le voit et qu'on a envie de le suivre. Eh bien, on ne peut pas le suivre sans se coltiner tous les autres qui le suivent déjà. Non? Oui? Vous voyez Jésus et ses disciples, quelqu'un qui s'ajoute en disant « Je veux te suivre aussi Jésus », eh bien, il ne va pas dire à Jésus « Vire tous les autres pour qu'on soit juste tranquille, toi et moi ». Suivre Jésus, c'est aussi se coltiner tous les autres. Et c'est parfois très sympa, et c'est parfois très compliqué. Mais ça fait partie de cette démarche de Jésus se constitue un peuple, et ce peuple aussi a besoin de se continuer à s'édifier, à se construire au fil du temps. Ce peuple, dans ce peuple, on apprend à vivre ensemble, on apprend à s'accueillir les uns les autres, on apprend à élargir notre vision des choses pour accueillir les autres, parce qu'on a besoin de... Pour s'accueillir, on a besoin de voir plus large, de sortir de notre petite vision des choses qu'on a reçues dans notre éducation, dans notre culture, et commencer à voir comment font les autres, comment pensent les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter aussi. Et donc il y a un processus d'élargissement de chacun d'entre nous pour être dans cette communauté. Surtout que l'Église du Seigneur, c'est une église sans barrière. C'est une église, comme le montre l'Apocalypse, de personnes de toute langue, de toute race, de toute, etc., etc. Et donc voilà, faut apprendre à vivre ensemble. Et aujourd'hui, évidemment, on vit ce processus beaucoup plus qu'il y a 100 ans, puisqu'on a un brassage de population, une circulation de population. Nous avons la chance d'avoir un ami avec nous qui vient de l'Inde. Donc c'est des choses qu'on n'aurait pas eues il y a 100 ans, par exemple. Sauf peut-être à Paris, la capitale, mais en tout cas pas dans un petit village, dans une petite ville comme Châtenois. Et donc, dans la plupart des églises, nous avons des personnes, nous avons aussi, qui viennent d'ailleurs, et c'est super. Non, mais ça nous oblige à voir autrement, à accueillir et à être attentifs à ce qu'apportent les uns et les autres. Et nous avons ce phénomène depuis 20-30 ans dans les églises dans les villes plus grandes, d'églises qui sont constituées par des réfugiés, donc des églises de Congolais, des églises de Rwandais en Belgique, que j'ai rencontrées, et d'autres, etc. Et qui, avec qui aussi nous essayons dans des structures comme des ententes évangéliques ou des pastorales, à découvrir et à recevoir les uns des autres, aussi avec la différence de manière de voir les choses, avec des cultures différentes. Et c'est une expérience géniale, mais difficile parfois. Et c'est parfois très compliqué même. Mais Dieu se constitue un peuple avec chacun, et c'est du monde entier, et c'est une, un défi pour nous, et ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin d'élargir notre horizon, d'élargir notre manière de voir, d'élargir notre sensibilité. Et donc nous devons dépasser une compréhension strictement individuelle ou même individualiste du salut. Il nous faut nous débarrasser de cette compréhension boiteuse du salut qui est plus liée à l'individualisme moderne qu'à une juste compréhension de l'Évangile. Le salut nous met tous devant la vocation à faire Église ensemble, à être peuple de Dieu. Et c'est ce peuple qui reflète et exprime le mieux l'œuvre de Jésus. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous verront que nous sommes ses disciples. C'est Jésus qui l'a dit. Donc le défi de l'Église, le défi du peuple de Dieu, c'est aussi celui-là. Vivre ensemble, s'organiser ensemble, avoir des projets ensemble, apprendre à s'accueillir, à s'apprécier, à s'aimer. Chemin qui est toujours, qui n'est jamais abouti et dans lequel nous pouvons toujours progresser. La communauté est ce lieu premier, bien que non exclusif, de l'obéissance chrétienne. Un lieu, ressource indispensable aussi pour notre cheminement, parce que nous apportons les uns les autres des choses pour avancer dans la foi. C'est un défi et c'est une chance. Dernier point, par rapport au salut dans notre texte, sont une expression qui revient, les œuvres bonnes. Les œuvres bonnes. Alors, ça revient 6 fois dans la lettre de Tite, qui n'a que 3 chapitres. Donc c'est vraiment une expression à la fois très générale, mais sur laquelle Paul insiste. Produire des œuvres, vivre de belles œuvres est la vocation du chrétien, quelle que soit sa situation concrète. Cette expression est la conclusion du premier enseignement sur le salut, à la fin du chapitre 2, verset 14, et en conclusion du deuxième enseignement sur le salut, au chapitre 3, verset 8. Cette expression est générale, elle recouvre un grand nombre d'attitudes et d'engagements. Notre texte donne un aperçu. Être soumis aux princes, aux autorités. Obéir, être prêt à toute œuvre bonne. Ne calomnier personne. Ça, c'est un truc qu'on ne redira jamais suffisamment dans les communautés. Être pacifique. Être conciliant. Et faire preuve de douceur envers tous les êtres humains. Voilà. Il y avait déjà ça. Si vous en voulez plus, non, il y a le reste. Il y a beaucoup d'autres choses dans le texte, mais ça, c'est déjà pas mal. Il me semble. 2 aspects sont soulignés dans ton texte. La capacité à s'inscrire dans la réalité créée et organisée par Dieu. Les chrétiens pensaient que la foi, ça nous évade de la réalité. On n'a pas besoin de tenir compte des structures sociales et politiques. Et Paul dit l'inverse. La soumission, c'est pas la bête obéissance à tout et n'importe quoi, mais c'est le fait de s'inscrire dans une réalité sociale et politique qui n'est pas forcément génial toujours, hein, ça c'est sûr, mais s'inscrire là-dedans, pour agir là-dedans aussi. Et l'autre, l'autre aspect, c'est évidemment la vie relationnelle. La vie relationnelle. Ce qui est intéressant avec les œuvres bonnes, c'est que chacun de nous, par sa manière d'être, contribue à la vie du peuple, positivement ou pas. Mais il n'y a pas de troisième voie. Soit on est dans la construction positive de l'Église et dans le fait de vivre des œuvres bonnes, soit on n'y est pas et nos œuvres ne sont pas bonnes. Mais il n'y a pas d'œuvre neutre. Vous voyez? On ne peut pas se dire « je suis au bord du chemin et je regarde ». On est toujours dedans. Soit d'une manière positive, soit d'une manière négative. Nous avons besoin de méditer ces exhortations de Paul au verset 2 pour nous aider à avoir des attitudes constructives et positives et demander à Dieu de nous aider pour cela. Évidemment, quand nous lisons ces exhortations, on se rend bien compte que, au moins pour certaines d'entre elles, il y a des résistances en nous. C'est pas si évident, c'est pas si naturel. Et c'est aussi là le défi d'avancer, le défi de demander à l'Esprit de nous conduire, de travailler en nous ce qui est compliqué, ou parfois tordu même, pour que nous entrions plus avant dans le chemin que Dieu trace devant nous, les uns avec les autres. Soyons encouragés à grandir dans l'expression de ce salut. En tant qu'Église, peuple de Jésus, et dans les diverses manifestations de notre existence, dans l'Église, mais aussi, comme c'est répété deux fois dans le texte, envers tous les êtres humains. Et je suis content de faire cette prédication après avoir entendu Sophie, parce que le travail du SFE est une expression de cela, de ces œuvres bonnes que nous sommes invités à avoir. Et nous pouvons, et c'est aussi l'expression du peuple, parce que c'est ensemble, les maïs français, des Suisses, et je ne sais pas où, que le SFE a été créé, et c'est ensemble qu'on peut faire des choses qu'individuellement on ne pourrait pas faire. C'est parce que les choses ont, plusieurs se sont regroupées, qu'il existe des associations comme le SFE, et que nous pouvons manifester l'amour de Dieu de cette façon-là. Amen.